Brume 90.7, nouvel entretien Confluence Cinéma. Comme chaque mercredi, nous sommes avec Hakim et Raphaël. Bonsoir à vous.
Bonsoir à vous.
Bonsoir, ça fait bizarre de dire bonsoir parce que plus les jours avancent, plus les mois avancent et plus les journées s'agrandissent. Et donc là, on vous dit bonsoir, mais il fait encore beau et doux et ensoleillé.
Alors aujourd'hui, nous allons parler de pas mal de films finalement, notamment Au nom du Fils, que tu es allé voir récemment.
Que j'ai vu durant la dernière édition des Hallucinations Collectives et qui surfe un peu avec la polémique du moment, parce que ça parle de pédophilie, là en l'occurrence dans le milieu catholique. Et c'est un film complètement barré qui malheureusement subit les censures de la région, de la politique parisienne cinématographique.
Alors, de ton côté, Babysitting, c'est ça ?
Ouais, une comédie française. Actuellement, c'est à la mode. Je crois qu'Hakim, tu avais très bien commenté Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui cartonne au cinéma actuellement.
Oui. Bon, en période de crise, c'est les comédies qui priment.
Et celui-là cartonne aussi. Il y a plus d'un million de spectateurs et tant mieux.
D'accord. Dans une deuxième partie, on reviendra aussi sur deux autres films. Alors, une réédition de La Valse des Pantins, c'est ça ?
Ouais, l'un des Scorsese les plus sous-estimés, l'un des plus oubliés malheureusement, et qui ressort le 14 mai chez Carlotta.
Et du coup, à qui
Moi, je suis allé voir, contre toute attente, le dernier Xavier Dolan, bien que ça fait quelques temps que j'annonçais d'aller le voir. Mais oui, j'évoquerai en quelques mots ce film qui, plus j'y pense, plus j'en pense moins de mal. Je suis sorti de la projection hier soir, j'étais assez en colère et finalement, après une bonne nuit de sommeil, je me dis qu'il y a des choses pas mal intéressantes.
Et dans la troisième partie, nous reviendrons un petit peu sur la carrière et les grands films de Robert Bob De Niro. Voilà, pour ce soir. On attaque, qui c'est qui commence alors ? Qui c'est qui ouvre le bal ?
Je vais commencer avec Au nom du Fils, qui est un film, un ovni, on peut le dire très clairement, que j'ai découvert durant, il y a un mois, durant le dernier Hallucinations Collectives, concocté par Cyril Despantin. D'ailleurs, je remercie Cyril Despantin d'avoir programmé ce film, car malheureusement, il n'est distribué que dans 10 salles en France. Il a fait pas mal de festivals en province, je parle de la France, qu'il a très bien voyagé dans le reste du monde. C'est un réalisateur belge, donc le film est belge. Et le film parle de pédophilie, du moins des cas de pédophilie dans l'Église catholique. Ce qui explique pourquoi le film a beaucoup de difficultés à être projeté à Paris. Il n'est pas du tout projeté, pas du tout programmé. Les salles d'art et essai, d'après ce que j'ai lu, se justifient en disant que le c'est pas le propos qui gêne, c'est la qualité artistique, c'est complètement aberrant. Alors, pour faire rapide...
Mais alors, je comprends pas, moi, parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été faites et diffusées là-dessus, quand même. Oui, je veux dire, on a quand même cassé des barrières à ce niveau-là.
Mais c'est le ton du film, apparemment.
C'est le ton du film. C'est une comédie noire, c'est, on va dire, c'est arrivé près de chez vous, oui. Du 21e siècle, mais... Pourquoi le film ne se montre pas à Paris alors qu'il se montre en province, qu'il se montre à Lyon, en l'occurrence au Comédia ? C'est un mystère. D'ailleurs, le réalisateur Vincent Lanoux, qui est venu à Lyon pour le présenter le mois dernier, a dit « Je ne comprends pas, il y a un événement qui s'appelle « Le mariage pour tous » qui a été médiatisé, vous avez adopté cela. Je pensais que c'était un pays laïque et j'ai l'impression que non, qu'il y a encore des tabous, qu'on ne peut pas tout dire, tout montrer, du moins avec des arguments solides. Et il y a aussi l'affiche qui a été censurée un petit peu. Et là, c'est encore un lien de parenté avec « C'est arrivé près de chez vous », hein, car l'affiche montre une Vierge Marie avec le visage de la photo de l'héroïne, un enfant dans sa main gauche, un flingue dans sa main droite, et l'enfant, ça c'est l'affiche originale, hein, a au milieu du pénis une croix. Et donc la version censurée, donc l'affiche qui est diffusée un peu partout maintenant, ils ont supprimé la croix. Donc ça annonce le truc. L'histoire, ça peint un petit peu le milieu dans lequel on travaille, dans lequel on vit, à savoir la radio. C'est l'histoire d'une mère de famille très, très croyante qui travaille pour une radio catholique, hein, du style RCF. Elle héberge un prêtre et elle va apprendre... successivement que son mari va mourir lors d'un entraînement organisé par l'Église catholique qui a pour but de s'entraîner à tuer contre des mannequins représentant des terroristes islamiques, déjà. Elle apprend ensuite le suicide de son fils. Elle apprendra avant cela en direct par son fils qui l'appelle en direct à la radio qu'il est homosexuel. Et juste après ça, elle va apprendre que le prêtre qu'elle hébergeait avait une relation amoureuse avec son enfant qui venait de se suicider. Et elle apprend que plusieurs cas de pédophilie ont été recensés au sein de l'Église, bon, en Belgique, catholique, et qu'ils ont été étouffés.
Mais il s'inspire de faits réels,
non,
du coup.
Oui, alors il s'est inspiré.
C'est pas du tout,
non, c'est une fiction inventée, mais qui fait suite à un contexte, à tous les cas de pédophilie qui ont lieu au sein de l'Église catholique. D'ailleurs, lui, il ne comprend pas, le réalisateur, parce que lui-même dit que le pape a reconnu qu'il y avait eu des faits, hein, qu'il ne veut pas laisser ça sous silence, et apparemment, il y a un problème. Alors moi, c'est un film que j'ai trouvé hilarant dans sa première partie. Il y a des séquences d'humour hilarante, comme seuls les Belges peuvent le faire. Un des curés est interprété par Philippe Naon. La première séquence, c'est une vidéo avec Naon et un autre curé qui font une petite vidéo promotionnelle pour récupérer de l'argent. Et le fameux prêtre pédophile qui est hébergé par la protagoniste, à un moment donné, mais ça c'est pas une faute de mauvais goût, il n'y a que les Belges pour faire ça, hein, il emmène le gamin et il l'emmène dans un restaurant marocain et en regardant, en mangeant du couscous et en regardant une fille en train de se dandiner avec une petite danse orientale, je lui fais des attouchements et lui montre, il fait des attouchements en même temps qu'il regarde la fille en train de se...
Ça, c'est les Belges, quoi.
Et là, par contre, la deuxième partie qui est là, on est dans le Vigilante Movie. Alors, je vois déjà mes ennemis qui vont dire « Ah, le Hakim, il n'aime pas la deuxième partie parce que c'est un Vigilante Movie. » Non, pas ça. C'est que la deuxième partie est beaucoup moins hilarante et beaucoup moins drôle que la première partie. Donc, du coup, il y a un petit déséquilibre. Et on aurait voulu l'inverse, hein, commencer par une partie simplette moyenne et finir en apothéose. Donc, c'est le seul regret que je mets. Ça, départ, on est vraiment dans « C'est arrivé près de chez vous » et deuxième partie, on est plus dans du Tarantino. C'est un film vraiment que je trouve pas parfait, hein. Il a les qualités et les défauts justement de C'est arrivé près de chez vous qui commençait
pareil. Mais original, quoi, en tout
oui,
cas.
Le
quoi.
Début vraiment très très drôle, plus t'avances dans le film avec Poulvord et plus
c'est. Ça reste un chef-d'œuvre, hein,
mais ça reste un chef-d'œuvre. Là, c'est en couleur. Il y a pas un aspect documentaire. Il y a que les Belges pour faire ça. Moi, c'est un film que je recommande d'aller voir, surtout que voilà, c'est un peu le film maudit de ce 21e siècle, du moins en Europe. Il passe au Comédia à Lyon. Il passe dans 10 salles en France, comme je l'ai déjà dit. Allez le voir, c'est drôle. Il y a que les Belges pour faire ça.
C'est une autre culture. Quand tu vois les Espagnols aussi, ils font Torrente, par exemple. Mmh. Tu vois ce que je veux dire. Il y a que chez nous où des sujets aussi tabous ou aussi crades, etc., ne peuvent pas sortir.
À Paris, apparemment, parce que dans le reste de la France, il paraît qu'il a même été projeté à Uzès, dans le sud de la France, pour dire dans un petit peu.
Dans les festivals.
Dans les festivals, ouais. Il est quand même programmé. Mais à Paris, des festivals parisiens qui n'ont pas voulu le programmer, qui n'ont même pas voulu le distribuer. Ouais. C'est étrange.
Alors Raphaël, toi, t'es allé voir il y a quelques temps déjà Babysitting, c'est ça ?
Je l'ai même vu aujourd'hui, puisque j'avais du retard en fait sur les dernières comédies.
C'est sorti en tout cas il y a quelques
temps. Ouais, il y avait un gros buzz autour du film, bizarrement. Enfin, il y a 1 million de spectateurs déjà. Grand prix du jury, du public, pardon, au Festival de l'Alpe d'Huez, après le Manu Payet que j'avais chroniqué il y a quelques semaines. Plus le Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu. Il y a tout un contexte à l'heure actuelle sur la comédie française qui est en train de bouger, une jeune génération. Et donc, par conséquent, je suis un peu curieux et je suis allé voir ce film qui ressemble beaucoup sur le papier à un film qu'on avait chroniqué à l'époque de Sur la route du cinéma qui était Projet X. Je sais pas si tu l'avais vu toi à l'époque.
Non, je l'ai pas vu. Mais c'est comme si je l'avais vu avec toutes les images, les parodies, les produits dérivés.
Qui est un film à l'époque que j'avais pas du tout aimé, donc qui retraçait comment une bande de gamins faisait une fête chez eux et que ça dégénérait jusqu'à brûler la maison, les policiers arrivent, etc. Et c'était filmé en found footage, le procédé qu'on voit dans Cannibal Holocaust, Cloverfield, tous ces films-là, Blair Witch, et qu'ils avaient adapté justement à la comédie, ce qui était assez nouveau. Mais le film était assez vulgaire quand même, je l'avais trouvé pas du tout drôle. Et Philippe Lachaud, qui est un auteur de Canal+ à la base, hein, il vient de la bande à Fifi, hein, donc toute une bande humoristique de Canal, avait écrit le scénario de Babysitting avant celui de Projet X. Mais voilà, la frilosité française fait qu'ils n'ont pas donné l'argent à les producteurs, les distributeurs et compagnie. Et donc, du coup, le film a un peu pris du retard et il sort seulement aujourd'hui, en 2014. Et force est de constater déjà qu'avec le même pitch, à savoir une fête qui dégénère dans une bonne famille française, voilà, chez Gérard Jugnot et Clotilde Courau, il arrive vraiment à faire un film vraiment hilarant et qui, contrairement au tien, devient de plus en plus drôle en fait, au fur et à mesure du temps. En fait. Le début du film, on se dit, bon, qu'est-ce qui va trop se passer ? Voilà, on voit le héros incarné par Philippe Lachaud qui doit garder un gamin, celui de Gérard Jugnot et de Clotilde Courau, et il fête ses 30 ans et ses amis débarquent évidemment dans la maison familiale et vont foutre le souk, littéralement. Et à partir de ce pitch, ce qui est très très fort, je trouve, par rapport à Projet X, c'est qu'il crée une vraie histoire. Ça devient progressivement de plus en plus drôle, tout en ayant à la fin du film vraiment des traits d'émotion. Et ce qui est très bien, c'est qu'on, tu disais, les références avant, elles sont pas très bien digérées parfois. Ici, elles sont très bien digérées.
Tu anticipes un truc que je veux dire tout à l'heure.
Oui, oui.
Tu fais référence à un truc que je t'ai dit
en antenne. Voilà, excuse-moi, j'ai pas précisé. Et ici, il arrive très très bien à digérer tout ça, à créer un film qui est vraiment, je trouve, moderne pour le cinéma français et qui est hilarant. Il y a des gags mais visuels à crever de rire. Par exemple, il y a le voisin qui est un peu vieux, donc évidemment, il se plaint auprès des flics qui a un tapage nocturne. Il se rend dans la maison et il y a l'un des mecs complètement bourré. Il dit mais toi, tu ressembles trop au vieux de là-haut. Et donc, du coup, il attache des ballons et tu vois le vieux qui commence à partir dans le ciel. Enfin, il y a des gags comme ça qui sont vraiment très très drôles que j'avais jamais vu en France. Moi qui adore la comédie américaine, et j'ai trouvé ça frais, j'ai trouvé ça drôle. Et je comprends pourquoi ça cartonne, toute cette nouvelle génération qui en plus est super modeste, qui se la pète pas, qui a pas de, comment on pourrait dire, de prétention, si ce n'est faire un bon film divertissant et assez drôle. Tout comme ton film à toi, il y a quelques défauts, voilà, il y a quelques petits problèmes de rythme parfois. Mais en général, le found footage est assez bien emmené, puisqu'il ne repose pas que sur ça. On voit en fait Gérard Jugnot et Clotilde Courroux qui découvrent la vidéo qu'ils ont faite pendant la soirée, après la disparition du gamin. Donc du coup, il y a des interactions entre le vrai film et le found footage qui sont assez bienvenues et quand même justement un autre regard par rapport à ce genre qui est assez formaté et qui est quand même assez généralement en bout de course quand même.
Pour reprendre une citation de notre cher ami Arnaud Bordas, c'est une technique cinématographique de fainéant.
Oui, on peut le dire. Et Philippe Lachaud s'en cache pas dans les interviews, il dit qu'il a adopté ce procédé très tôt pour des raisons financières. Il faut quand même se l'avouer. Et ça marche très très bien. Et moi, franchement, c'est leur premier film. Donc Philippe Lachaud et Nicolas Benamou. Et j'attends vraiment leur deuxième, puisque là, il y a tout un univers, il y a toute une bande d'acteurs. On voit les acteurs du Palma Show qu'on voit sur Début, qui sont très très drôles aussi. Et non, ça marche vraiment, vraiment super bien. Et encore une fois, il y a des super gars, quoi. Comme le Bouticek, il y a une gondesse qui arrive au bout d'un moment, voilà, elle lui écrase son cul pendant 5 minutes devant la caméra. Il y a Gérard Jugnot qui voit ça et tout. C'est super drôle, c'est super frais. Donc voilà, moi j'attends le deuxième.
Ça roule. Et ben, on écoute un premier morceau de musique, on se retrouve ensuite pour parler du coup de la valse des pantins et de Tom à la ferme.
Confluence, l'entretien.
Deuxième partie de cet entretien Confluence Cinéma. Et Hakim, tu vas nous parler donc du dernier film de Xavier Dolan, Tom à la ferme.
Oui, Tom à la ferme, un film que j'avais envie de voir depuis quelques temps. Ça fait quelques temps que le film est sorti. Comme tout le monde le sait à peu près sur les antennes de Brume, je ne suis pas du tout un fan de Xavier Dolan.
Moi non plus au passage.
C'est pas de jalousie, hein. Pas parce que ce petit garçon à 24 ans a fait 5 films, qu'il est déjà reconnu dans le monde entier, qu'il est primé à Cannes, enfin pas primé à Cannes, mais il est sélectionné à Cannes. Non, c'est juste que c'est son petit côté un peu narcissique qui m'énerve et les thèmes qu'il évoque qui ne sont pas forcément ma tasse de thé. Et là, je suis allé voir ce film parce qu'il avait déjà la balance m'intriguer. l'affiche aussi et l'étiquette.
Même le titre, ça fait Martine à la ferme, quoi, tu vois.
Non, ça ne m'avait pas marqué principalement. Mais l'étiquette thriller policier qu'on lui attribuait voilà, m'a intrigué, surtout que je suis un peu, c'est un peu le genre dans lequel je baigne en ce moment. Donc j'y suis allé hier soir au Comédia, dans une belle salle, une belle copie. Et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était du Dolan et que ça n'allait pas forcément être ce dont je pensais voir. C'est l'histoire d'un jeune garçon, donc d'un jeune homosexuel de Montréal qui s'aventure dans la campagne canadienne, non, québécoise, pardon. Il va à l'enterrement de son amant. Lui est publiciste, c'est ce qui est dit dans le synopsis, et il entre par effraction dans la maison de la maman de son amant. Qui ne le connaît pas, qui ne sait pas que son fils avait une aventure avec un homosexuel, que son fils était homosexuel. Très rapidement, il va essayer de s'imposer dans cette famille de façon gentillette, en important son soutien, ses condoléances. Et va arriver un personnage imprévu dans ce milieu, c'est le frère aîné donc de ce garçon qui est mort et qui n'accepte pas que son frère ait une relation avec un homosexuel. Et donc, du coup, il menace le personnage de Xavier Dolan. Il le menace si il divulgue la vraie relation homosexuelle à sa maman. Alors, ce qui est étonnant, parce que ce personnage-là, qui est un redneck, qui est un fermier assez conservateur, assez limité dans sa philosophie de pensée, est plutôt bien bâti. Il a un physique assez original, bien monté. Et par moments, dans le film, il y a des scènes assez étranges, des scènes à la limite de l'homosexualité entre Xavier Dolan et lui. Donc, c'est assez ambigu. Les personnages sont tous ambigus. Alors, après... Pourquoi on lui met l'étiquette du massacre à tronçonneuse québécoise, le thriller de l'année québécois, etc., etc. C'est que le film se passe dans la campagne québécoise, qu'il y a un aspect assez redneck, assez pas pourri, on va dire, mais vraiment
malsain, quoi.
Malsain, avec des personnages tous ambigus plus que les autres, avec des séquences... Qui flirte un petit peu avec l'horreur. Je pense notamment à une séquence de la douche qui n'est pas une énième référence à la scène de la douche de Psychose. Mais il y a effectivement cette ambiance thriller fantastique qui règne. Le problème, je trouve, c'est que Dolan fait cette fois-ci un film court, 1h40, alors que ses films font plus de 2 heures, 2h30, 2h20. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas le temps de traiter tous les domaines qu'il avait intéressé le départ dans la pièce de théâtre. C'est à la base une pièce de théâtre qu'il a vue en 2011. Je trouve qu'il est assez limité dans son propos, qu'il digère assez mal toutes les références et tous les sujets qu'il veut évoquer en 1h40. Il y a beaucoup de sujets à évoquer. On pourrait même faire une étude sociologique justement sur le comportement des homosexuels à la campagne et l'arrivée des citadins en campagne. Plus j'y pense, et plus je me dis que finalement, il y a des choses intéressantes. Je ne sais pas lesquelles. En tout cas, là, j'ai eu la confirmation de ce qui me gêne dans le cinéma de Dolan.
Côté poseur, quoi.
Côté poseur, ce côté narcissique, ce côté je me filme, ce côté je regarde mon nombril.
Je suis un petit génie, alors regardez-moi, quoi.
Voilà. Je n'ai pas vu son dernier film, Lawrence Anywhere, où il ne jouait pas, mais où Melville Poupeau jouait le premier rôle. Et de ce que j'ai entendu et ce que j'ai pu lire, c'est que c'était un de ses meilleurs films. Pourquoi ? Parce que justement, il ne se montrait pas dans la caméra et il travaillait principalement sa mise en scène. Il se concentrait principalement sur sa mise en scène. Le film est très beau, plastiquement. Il y a une belle photographie, des beaux mouvements de steadicam. Justement, ambiance très brumeuse, des ambiances un petit peu pas post-apocalyptique, mais avec du coucher du soleil qui accentue le côté un peu morbide de ces séquences dans les campagnes, dans cette ferme avec ces vaches. Ça m'a rappelé un peu Isolation, ce film qui avait eu le Grand Prix officiel de Gérard Armé en 2007-2006.
Sur le papier, on dirait quand même Queer as Folk qui rencontre Canicule de Yves Boisset, tu vois.
Ouais, t'exagères un petit peu. Ouais,
bah oui, comme ça.
Mais malgré ça, je trouve que voilà, c'est mitigé. Comme je le dis une dernière fois, j'ai sorti de la séance un peu en colère et complètement dégoûté du cinéma de Xavier Dolan. Et plus j'y pense, et plus je me dis qu'il y a quand même des choses intéressantes. Voilà. Et pour finir, j'ai découvert un truc sur Dolan, c'est que il a commencé en tant qu'acteur, hein, il a un peu baigné dans le milieu, il a fait beaucoup de publicité, beaucoup de courts-métrages. Et ça, je n'avais pas remarqué, mais il fait partie du casting de Martyr et il fait partie des deux enfants de la famille qui sont assassinés au début de Martyr. C'est le gamin qui reçoit un gros coup de fusil de chasse.
Apparemment, ils ne l'ont pas achevé alors.
Oui, ils ne l'ont pas achevé. Mais voilà. Et il a commencé, voilà, on ne va pas refaire l'histoire, mais en 2009, il se fait reconnaître sur le casting réalisateur avec J'ai tué ma mère. un film assez, dont le titre assez ambigu, assez étrange, m'avait poussé à aller voir ce film à la Cité internationale, prix à quinzaine des réalisateurs. Et je suis sorti avant la fin du film. Après, je dirais une chose, c'est peut-être un peu méchant, mais j'ai constaté dans la salle que ça faisait que plusieurs personnes pensaient la même chose. C'est quand même bizarre de voir un film en québécois. Et c'est difficile de ne pas rire quand on écoute des gens.
C'est sous-titré généralement quand même.
C'est sous-titré par moment. Il y a des phrases qui sont compréhensibles, des phrases non. Avec des,
En même temps, ça n'aurait aucun sens de le doubler en français. Quoi.
Non, oui, ça c'est que là, oui. Mais après, tu vois, pour dire voiture, je ne sais plus ce qu'ils disent.
Un chat. Un
chat, ouais. Voilà, j'ai oublié mon chat. Tu vois. Bon. Je ne sais pas si c'est ça qui me gêne, mais bon. Voilà.
En tout cas, à Ken, on verra son prochain film qui est déjà prévu, c'est Mommy. Mm-hmm. Il dure 2h14.
Moi, c'est vrai que je n'ai pas le même regard sur Xavier Dolan que vous.
Mais il y a des gens qui l'aiment.
Non, mais moi, ce n'est pas une histoire d'aimer ou pas aimer. C'est juste que je pense que c'est quand même quelqu'un qui a une finesse de propos et dans ses scénarios et dans sa manière de filmer et dans ce qu'il dit de la société. Et que voilà, tout n'est pas extraordinaire, mais il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Et il est quand même beaucoup plus brillant que la majorité des jeunes réalisateurs qui sortent aujourd'hui. Enfin voilà, on verra ce que ça donnera à Cannes. De ton côté, Raphaël, tu vas nous parler d'un grand chef-d'œuvre du cinéma, du 7e art.
Pour moi, c'est un très grand film. L'un de mes préférés de Martin Scorsese, qui est, vous le savez, l'un de mes cinéastes favoris. Et c'est un film qu'on redécouvre progressivement. Et là, il ressort donc en DVD et en Blu-ray chez Carlotta.
Il était déjà sorti en copie neuve.
Hein. Ouais.
Donc il y avait une sortie cinéma. Là, il y a une
exactement. Et j'ai eu la chance justement de voir la copie neuve en 4K, qui est magnifique. Mmh. Très, très belle copie, très bien restaurée. Le film, on avait besoin quand même, parce qu'il y avait simplement une édition DVD qui était assez pourrie chez la Fox. Enfin, passons. Et le film retrouve toute sa beauté. Et c'est un film un peu atypique dans la carrière de Martin Scorsese, quoique, puisqu'il évoque une période plus drôle de Martin Scorsese. C'est quand même quelque chose qui est quand même très présent dans sa filmographie en filigrane, en fil rouge. Hein. Dans tous ses films, on retrouve beaucoup d'humour, même dans ses plus noirs, comme À tombe ouvert, par exemple, qui est un très grand film d'humour noir. Et là, Martin Scorsese nous fait un peu la version comique de Taxi Driver. Le film sort en 83 et ça retrace l'histoire de Rupert Pupkin, incarné par Robert De Niro, qui est un personnage assez fêlé et qui veut devenir un stand-upper. Donc faire du stand-up, hein, il veut devenir une énorme star de la comédie. Hein. Et il est fan de Jerry Lewis, qui est une sorte de Michel Drucker de la télévision. Aux États-Unis, une sorte plutôt de Jay Leno, on pourrait dire aujourd'hui, hein, un animateur humoriste, hein, et il veut justement l'inciter à voir ses spectacles, et l'autre il refuse. Et il décide du coup de le kidnapper, et la rançon en fait c'est de passer dans son show pendant 10 minutes et de faire son spectacle. Et il va justement s'accoquiner De Niro avec une fan vraiment hystérique jouée par Sarah Bernhardt, qui est une humoriste justement à l'époque, et les deux voilà, vont commettre ce méfait jusqu'à la célébrité. Hein. C'est un film qui est. Comme tous les Scorsese, a une gestation assez particulière, très longue. Hein. À l'époque, Scorsese sort de Raging Bull. Il est complètement lessivé. C'était le film de sa vie. Il pense s'arrêter après. Et le film est un échec monumental. Et à l'époque, Scorsese veut partir en Italie. Il veut arrêter. Il veut devenir même à une époque éleveur de chèvres en Sicile.
Et, c'est vrai ça ?
Oui, c'est véridique. Il pensait arrêter. Et c'est De Niro, comme d'habitude, qui se pointe avec un scénario qu'il avait à la base soumis à Michael Cimino, hein, The King of Comedy, hein, dans la version originale. Un film qu'il voulait vraiment, hein, un film qui montrait sa palette autre, hein, comique, etc. Et Cimino n'avait pas pu à l'époque puisqu'il faisait La Porte du Paradis. Et du coup, Scorsese avait refusé une première fois et De Niro revient à la charge en 83 pour faire La Valse des Pantins.
Et c'était juste après Raging Bull, hein, on est bien d'accord.
Oui, juste après Raging Bull. Et donc Scorsese décide de dire oui, il se trouve des points communs avec Rupert Pupkin, c'est-à-dire à la fois le côté jeune ambitieux, avec les dents qui arrivent le parquet, qui est prêt à tout pour réussir, ce qui a été Scorsese au début de sa carrière. Et il se repère aussi dans le côté de Jerry Lewis, l'homme posé maintenant, Scorsese s'est imposé à l'époque, il sort de très grands films. Et donc il se retrouve dans les deux personnages, il décide du coup de faire le film. Et De Niro, comme d'habitude, va faire un gros travail, hein, d'acteur studio, il va faire un personnage vraiment très très drôle avec une sorte de coupe de cheveux, on a une perruque, une moustache un peu
traviole.
Ouais, la
tronche qu'il a est extraordinaire.
Ouais,
quand même,
puis les costumes rouges avec des nœuds papillons, enfin il est à mourir de rire, De Niro, dans le film.
C'était un film contemporain à l'époque, il se passait dans
les années 80. Ouais, les années 80. C'est assez rare chez Scorsese, tu veux bien de le souligner, c'est un film contemporain. Et le coup de génie, c'est de mettre Jerry Lewis dans le rôle dramatique et de mettre De Niro dans le rôle comique. Et du coup, il y a une confrontation vraiment monstrueuse entre les deux acteurs. puisque en plus De Niro, dans sa méthode, énervait constamment Jerry Lewis en dehors des prises. Donc il refusait de lui parler ou il refusait ses invitations au restaurant. Et avant les prises, il lui faisait des remarques antisémites, ce qui avait le mérite d'énerver profondément Jerry Lewis. Et du coup, quand on voit les scènes, il est à deux doigts de craquer, Jerry Lewis. Il y a une séquence où Sarah Bernhardt le ligote, elle est limite en train de le torturer et il arrive à s'évader et il lui met une baffe dans la gueule, mais on sent qu'il met tout son corps, Jerry Lewis. Donc c'est vraiment du vrai, quoi. Et je pense que le film est mal aimé. Il a aussi fait un bide, The King of Comedy, La Valse des Pantins, puisqu'on ne retrouve pas le côté Scorsese baroque, c'est la musique frénétique, rock, fiévreux, etc., qu'on peut aimer.
Rolling Stone,
voilà, tous les tics, on pourrait dire, de Scorsese. Hein. C'est un film qui est très télévisuel. Il adapte vraiment sa mise en scène au show télé, hein, au late show américain. Et du coup, on est vraiment emprunt d'une certaine folie. Hein. De Niro, dans le film, fait ses sketchs tout seul dans sa cave avec sa mère. Et c'est un film qui, voilà, le pendant comique de Taxi Driver. Mmh. Autant Travis Bickle est violent pour sortir de ce monde-là, autant Rupert Pulkin, hein, que le nom est complètement con déjà, lui s'évade à travers l'humour. Et on ne saura jamais vraiment s'il est bon ou pas. Je ne vais pas vous dévoiler la fin, mais la fin est vraiment génialissime et apporte un regard mordant qui a 30 ans d'avance sur la télé-réalité et toutes ces choses. Et pour moi, c'est vraiment une pépite à redécouvrir. Je vous conseille vraiment de voir le DVD ou le Blu-ray.
Et il y a des bons bonus. Hein. Il y a une conversation, ouais, entre Scorsese,
Jerry Lewis et De Niro à Tribeca, mmh, il y a 4-5 ans, je crois. Et une table ronde. Et donc, il y a le making-of qu'on retrouve déjà sur le DVD. Et moi, je vous invite vraiment à le redécouvrir. Moi, c'est vraiment l'un de mes préférés. Et en plus, comme j'aime la comédie, c'est un regard très important, je trouve, de Scorsese sur ce monde-là, qui est très précis et qui est sans concession et en même temps très, très drôle.
Ça marche. Et pause musicale. On se retrouve après, justement, pour parler un petit peu de Robert De Niro.
Confluence, l'entretien.
dernière partie de ce conflit en cinéma, et on va donc évoquer justement, à l'occasion de la réédition de La Valse des Pantins, la carrière, un petit peu la vie de Robert De Niro. Alors Raphaël, t'es un grand fan, tu vas peut-être pouvoir nous faire un petit peu le déroulé de ce personnage mythique du cinéma américain.
Alors Robert De Niro, si je ne m'abuse, est né en août, le 17 août 1943, à Tribeca, si je ne m'abuse, d'un père... il a toujours un peu du mal avec les parents. Je ne sais plus si c'est le père qui est irlandais ou la mère, enfin bref. Il est irlando-italien à la base, et son père est un artiste peintre, hein, il porte le même nom que lui, vous pouvez voir ses toiles, hein, il s'appelle Robert De Niro Senior, et il est baigné, voilà, De Niro, très tôt dans la culture artistique, on va dire, hein, avec des parents très ouverts, et il va progressivement rentrer dans les Beaux-Arts, il va faire les Beaux-Arts à une époque, De Niro, il va même aller à Paris, et à Paris, il va rencontrer un certain Jean-Pierre Melville, ça c'est une anecdote assez rigolote, il va faire le casting de Deux Chambres à Manhattan, c'est bien ça, Hakim, le titre?
Alors, c'est pas Jean-Pierre Melville. Hein.
Oui, enfin, il rencontre Yves Boisset à la base.
C'est René René Clair, c'est un film avec celle qui est décédée là d'Alzheimer.
Mais ça c'est
Annie
après.
Girardot,
ça c'est après.
Oui, ce qui fait sa première apparition au cinéma.
Oui, dans Marcel Carnet.
Dans le Marcel Carnet.
Mais trois jours avant, il a fait un casting pour le film de Jean-Pierre Melville qui était, je crois, deux chambres à Manhattan. Deux, c'est ça. Manhattan.
Hein. Oui, oui. Hein. Ouais. Bah, tu confonds avec Deux Flics à Manhattan, qui est le film de Jean-Pierre Melville. Hein. Attention.
Je parle du film de Melville.
Donc c'est Deux Flics à Manhattan, pas Deux Chambres.
Eh ben voilà, c'est celui-là. Il passe le casting et il se fait complètement refouler par Jean-Pierre Melville, disant qu'il est pas assez américain. C'est comme une sacrée erreur. Et deux jours plus tard, il va donc au casting de Marcel Carnet, et c'est donc son premier film.
Il fait une apparition, il faut le reconnaître. Hein.
Ouais,
si on le connaît
vraiment
bien,
une apparition.
Faut le reconnaître.
Et à partir de là, De Niro va tourner quand même pas mal de films. Il va tourner les premiers films de Brian De Palma, puisqu'à la base, c'est quand même l'acteur fétiche de Brian De Palma.
Greetings.
I'm Mom. Des films un peu sur le Vietnam, sur l'époque, le sexe et compagnie.
Et le premier film de De Palma, le premier long métrage qui... dans la chronologie, ne sera pas le premier long-métrage qui sortira en salle, c'est The Wedding Party.
Oui, voilà.
Voilà, un film complètement fou d'1h20 où il joue dedans. Et c'était le premier vrai long-métrage de Palma, et je crois l'un des tout premiers vrais longs-métrages dans lequel Robert De Niro avait un rôle assez
important. Un rôle conséquent, oui. Après, par la suite, il fait le casting du Parrain, le premier. Hein. Il se fait... refoulé, mais Coppola l'a quand même en tête pour Le Parrain 2. Et c'est à ce moment précis, en 72, qu'il rencontre Martin Scorsese sur Mean Street, hein, et qui va, voilà, on le sait maintenant, devenir son acteur vraiment fétiche. Il va remplacer Hervé Keitel dans le corps de Martin Scorsese. Ils vont enchaîner 8 collaborations, hein, donc de Mean Street jusqu'à Casino en 95. Hein, on peut citer quelques titres, hein, Taxi Driver, Raging Bull, La Valse des Pantins, Casino,
Les Affranchis,
et le très bon Cap Fear.
Le corps de Scorsese, quoi. Presque.
Oui, ouais, c'est son meilleur ami. Hein. C'est, entre eux, il y a une alchimie. Il paraît que sur les tournages, ils ne se parlent même plus. C'est juste dans des signaux, dans des regards. Et il arrive toujours à nuancer son jeu, etc. Toujours par rapport aux remarques de Scorsese. C'est vraiment une alchimie, hein, que plus tard, Scorsese retrouvera avec DiCaprio dans une autre mesure. Hein. De Niro, je vais y arriver, à chaque fois, s'adapte par rapport à son type de personnage. À l'époque, on l'appelait l'empereur. En 80, hein, il prend 30 kilos sur le tournage de Raging Bull. Hein, il s'entraîne pendant des mois. Il va devenir l'un des plus grands boxeurs entre guillemets de sa catégorie, hein, entraîné par Jack LaMotta. Il va jusqu'à porter des caleçons à l'Al Capone, justement les mêmes costumes qu'Al Capone dans Les Incorruptibles de Brian De Palma. Il devient catatonique pour L'Éveil. Et à l'époque, on dit qu'il est capable de se crever les yeux à la limite.
C'est acteur studio poussé à l'extrême. Quoi.
Ah oui, oui. Et sa méthode, généralement, c'est qu'il apprend le texte par cœur de Niro, vraiment à la virgule près. Et une fois qu'il le connaît par cœur, il le balance à la poubelle, il improvise. Ce qui est assez bizarre, mais c'est sa méthode de jeu. Hein. Et contrairement à Al Pacino, il est plus, lui, dans une démarche de devenir le personnage constamment, quoi. Même en dehors des prises. De Niro refuse qu'on le regarde dans les yeux, à vrai dire, parce que ça le déconcentre. Une fois qu'il a fait sa prise, c'est bon, il est OK, il devient De Niro. Mais avant, c'est impossible. Il expérimente aussi le passé du personnage, qui n'est jamais mentionné dans le scénario. Il crée plein de questions. D'où vient-il? Que fait-il? Qu'a-t-il fait avant? A-t-il fait le Vietnam? Etc.
C'est pour ça qu'il a assez bien entendu avec Tarantino, hein, sur Jackie Brown, même si Jackie Brown était un scénario original. Parce que Tarantino est quelqu'un qui adore... au-delà du scénario, inventer le passé des personnages. Bon, là, Jackie Brown, c'est un...
Tu connais l'anecdote sur les chaussures?
Non.
En fait, Tarantino, donc, composait le personnage de Louis dans Jackie Brown, et De Niro lui a demandé quelles chaussures il portait. Tonto, il faut, je n'en sais rien, moi, tu, n'importe quelle chaussure.
Le casse-couille de prod.
Voilà, c'est ça. Et donc, De Niro, en fait, a eu l'idée d'une paire de chaussures qui sera restée, en fait. Enfin, il se sera assis dessus, tu vois, pendant des heures et d'heures, une chaussure, donc il sera un peu mal à l'aise. Comme ça, ça montrera un peu, tu vois, le côté pâteau du personnage. Donc, vraiment, des détails infimes qui ne servent à rien, enfin, pour nous, mais pour lui, ça permet de construire un personnage. Et après, il se fait le look par rapport au personnage. On parle de Rupert Poutine, voilà, la moustache, la coupe de cheveux, les costumes.
New York, New York.
Enfin, oui, New York, New York.
C'est dingue.
Aussi,
si on faisait, faudrait faire, tu sais, un petit comme ça, un petit collage de photos de tous les rôles de De Niro, parce que c'est vrai que c'est quand même assez dingue dans Novecento 1900.
Oui. Avec Depardieu. Là, c'est marrant avec Depardieu, parce que Depardieu a une démarche inverse. Depardieu, il arrive sur le tournage, il en a rien à foutre, il est super bon au moment du action. Alors De Niro,
et
c'est
vous savez la légende là-dessus quand même, c'est que Depardieu aurait aidé De Niro pour une scène de sexe où il galérait grâce au baume du tigre.
Oui, mais d'art Depardieu, si je vais être un peu vulgaire, j'ai utilisé le terme de Depardieu, a évoqué une anecdote assez drôle sur le Grand Journal. Il disait justement que De Niro, même avec sa méthode de merde, je cite, n'arrivait pas à bander, hein, de toute façon. Donc voilà, les deux acteurs voilà, ont des méthodes complètement opposées. Ils sont très amis pour autant.
Et Bobby. Ouais, hein, il l'appelle Bobby.
Ouais, Bobby Milk.
Mais c'est bien ce que tu disais. Tu disais que Jackie Brown, c'était son dernier grand film en 97, ce qui est vrai. Et je trouve, au même titre que Al Pacino, les Robert Duvall, même les James Caine,
ça va encore.
Ils ont un peu le syndrome de l'acteur du Nouvel Hollywood des 70 qui, malheureusement, n'a pas supporté le passage à l'an 2000, qui n'a pas su se renouveler, n'a pas su revoir leur choix de rôle et finalement sont contentés à des
caricatures,
à des mauvais films, à des caricatures. Je crois que le summum, ça a été les re-retrouvailles entre De Niro et Al Pacino dans ce film policier.
Oui, La Loi et l'Ordre, qui est un navet absolu.
Qui est une honte, franchement. Qui est une honte.
Mais par contre, qui est intéressant à l'époque, au début des années 2000, après Jackie Brown, De Niro se remet en question à travers l'humour aussi. Il va faire Mafia Blues, hein, où il caricature son rôle de mafieux, qui est vraiment. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est un film qui est vraiment très très drôle et qui vit très très bien, tout le côté parrain et compagnie. Et après, il va faire Mon beau-père et moi. Et c'est à partir de là où il va faire plus que ça après, justement. Il va s'enfermer dans ce côté second degré. Et là, il va gagner des sommes astronomiques. Hein. C'est la première fois que ses films marchent. Il gagne 20 millions de dollars. Son plus gros succès, c'est Mon beau-père, mes parents et moi. Donc la suite de Mon beau-père et moi, qui est encore aujourd'hui la comédie la mieux classée de tous les temps, aujourd'hui encore. Hein. Je crois qu'elle a rapporté 500 millions de dollars. Enfin, et là, De Niro s'enferme. Et ça fait une dizaine d'années qu'il ne fait plus rien. Mis à part les films peut-être de David O. Russell, Happiness Therapy, où il avait un très bon second rôle. Un rôle presque à la Nicholson, un mec très toqué, voilà, qui était bourré d'obsession, etc., de superstition, voilà. Et il revient aussi dans American Bluff, je ne sais pas si tu l'as vu, Hakim.
Je ne l'ai toujours pas vu. Ah, t'as enfin dévoilé le petit...
oui, ah, c'est bon, là.
Pas la référence, mais le petit hommage, la petite Get Star.
J'ai vu la bande-annonce, il apparaît dedans, en fait.
Ah bon ?
Donc, du coup, je me suis dit que c'est bon, je peux le dire. Où il parle arabe, il y a une séquence où il joue...
Sérieux ?
Il joue un parrain, et il parle l'arabe, et là, il fout vraiment les jetons. Et
en tant que réalisateur, alors...
Oui, parce qu'il a fait deux films.
Ouais. Il a réalisé deux films, quand même.
Ouais.
Notamment un qui est plus ou moins autobiographique, non ?
Ouais, c'était une fois le Bronx, qui est plus ou moins un hommage, quand même, à ses origines, à son père, etc.
Et une raison.
Même si son père n'est pas un artiste, hein, dedans, pour le coup, il me semble, par rapport à ce que tu disais de sa biographie.
Lui et John, ils jouent un chauffeur de bus, et c'est une pièce à la base de Chaz Pamil Terry, qu'on retrouve dans le film, et qui joue aussi dans Mafia Blues, l'ennemi de De Niro. Donc, c'est encore un autre italo-américain assez célèbre aux États-Unis. Et c'est un film plus sur les origines, effectivement, voilà, le côté italo-américain, la mafia, les valeurs qu'on inculque aux enfants, le côté aussi un peu chrétien de Scorsese. Et c'est vrai que c'est un très beau film qu'on oublie un petit peu. Avec Lillo Brancato, qui est un jeune acteur à l'époque, hein, qui a fait après Les Sopranos. Et maintenant, il est en prison. D'ailleurs, il a tué quelqu'un, mais ça, c'est une autre histoire. Et après, il fait le très bon aussi Raison d'État, avec Matt Damon, qui est une sorte de...
Et Angelina Jolie.
Ouais, et Angelina Jolie.
Qui dure longtemps, hein, qui dure plus de 2h30, ouais, presque 3h. Ouais.
C'est une sorte de parrain dans l'espionnage, en fait. C'est comme ça que je le décrirais, où c'est le parcours d'un homme, voilà, Matt Damon, dans la CIA, et qui va monter tous les échelons et qui va de plus en plus se renfermer sur lui-même et être complètement autiste par rapport à sa famille. Et je crois qu'il est encore dans l'idée de faire une trilogie à partir de scénario, à partir de ce canevas. Et il veut faire deux suites.
Mais on parle de Tarantino, de Scorsese, de Palma. Il ne faut quand même pas oublier qu'il a joué dans le dernier film de Sergio Leone, peut-être son meilleur, Est-il une fois en Amérique. Et d'ailleurs...
Un chef-d'œuvre.
Oui, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est tout à fait. D'ailleurs, je crois que c'est notre film préféré de ces 30 dernières années avec Amaury et moi. Bon, mais du coup, assez curieux de voir qu'est-ce que... La méthode de Niro, est-ce que la méthode de Niro aurait pu marcher avec un grand réalisateur, par exemple Hitchcock, quand il a tourné Le Rideau déchiré avec Paul Newman, s'est beaucoup heurté à la méthode de l'acteur studio de Paul Newman.
Hitchcock, c'est l'acteur matériau.
Ouais. Et qu'est-ce que ça aurait donné avec Kubrick, par exemple. Après, je me demande pourquoi ça a fonctionné avec Léone. Parce que Sergio Léone, il préparait sur plusieurs années son film. Ça durait très longtemps et beaucoup de répètes. Il avait presque une méthode à la Kubrick, sauf que, bon, pas autant. Bah, c'était pas exactement la même chose, mais presque.
Enfin, très exigeant, en tout cas.
Assez étonné de voir que... Et j'ai plus l'impression, quand on évoque le tournage de Hit for America, que c'est plus Robert De Niro qui était... entre guillemets, à la merci de Sergio Leone qui se pliait aux règles de direction d'acteur de Sergio Leone pour une fois. J'ai enfin, pas l'impression
que ça allait avec son rôle aussi, oui. Ouais. Où quand même c'est celui qui subit, mine de rien, pas mal de choses, qui est un peu le grand perdant finalement de cette bande. Quoi. Donc peut-être qu'il y a comme ça quelque chose où, par rapport à son rôle, il s'est aussi laissé aller à la direction de Sergio Leone.
Ils ont beaucoup entendu sur le tournage, puisqu'ils ont un autre projet en commun au moment où Léon est mort.
Ouais, il devait jouer dans Stalingrad.
Les 500 jours de Leningrad, où le premier plan, on connaît que le premier plan, il y a De Niro en train de jouer au piano, la caméra avance, on voit une bataille derrière homérique, et c'est vrai que sur le papier, ça fait quand même envie. Quand même. Et c'est dommage, voilà, c'est encore l'une de mes obsessions, ça, les grands projets inachevés et avortés. On imagine encore ce que ça aurait pu donner quoi, à l'époque. Et De Niro, c'est à partir de là où il commence un petit peu voilà, à faiblir.
Ok, et bah écoutez messieurs, merci beaucoup pour cette nouvelle émission. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles aventures et c'est Cannes hein, finalement. On va être dans le timing Cannes, donc mercredi prochain vous aurez notre émission un petit peu sur les grands films sélectionnés, les réalisateurs, les acteurs qui seront là, voilà. Et puis dès le jeudi soir, vous aurez tous les jours une émission. En direct de Cannes, en direct ou en différé, mais en tout cas, vous aurez du 109 de Cannes parce qu'on vous chroniquera un petit peu les films qu'on aura vus dans la journée, les interviews qu'on aura pu faire et l'actualité cannoise. Voilà, et ben à très bientôt.